19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Qui pouvait, voici peu, se targuer de connaître Alula, vallée inconnue au cœur de l'Arabie déserte, désormais plus important projet archéologique au monde et aujourd'hui objet d'une exposition phare à l'Institut du Monde Arabe. Entre Médine et Tabouk, à quelques 150 km de la mer Rouge, Alula, vallée aride du Hedjaz parsemée de grès roses, s'avère bien plus qu'un projet archéologique. Elle est, par décret royal, le fleuron de la politique culturelle de l'Arabie Saoudite, le fer de lance de l'ouverture du pays au tourisme, axe majeur du programme de réforme du prince héritier Mohamed Ben Salman, ouvrant le royaume à une ère post-pétrolière. En témoigne la délivrance des tout premiers visas touristiques depuis fin septembre. Désormais, une demi-douzaine d'équipes de recherche travaillent dans le cadre de l'Agence française pour le développement d'Alula, partenariat franco-saoudien signé par Son Altesse Royale le Prince héritier et le Président de la République. Mais remontons le temps dans les pas de l'expédition des pères Jocelyn et Savignac qui œuvrèrent de 1907 à 1910. Laïla Némé fait aujourd'hui figure de grande pionnière de l'archéologie, l'archéologie nabatéenne. Laïla Némé, bonsoir.
Bonsoir.
Archéologue et épigraphiste, directrice de recherche au CNRS, Laïla Némé, vous co-dirigez depuis 2002 la mission archéologique franco-saoudienne de Medain Saleh, êtes co-commissaire de l'exposition Alula, merveille de l'Arabie, à l'Institut du Monde Arabe, mais surtout travaillez sur l'écriture nabatéenne et son évolution vers l'arabe, sujet passionnant, nous en reparlerons. Nabatéen, le mot est lâché. Laïla Némé, la civilisation nabatéenne semble assez étonnante, totalement en marge des puissants royaumes, et même sa conquête par Rome se fera, somme toute, dans la douceur.
Alors, dans la douceur, c'est peut-être un bien grand mot. Je pense que la manière la plus pragmatique d'envisager cette question est de regarder comment l'empereur Trajan revendique cette conquête. Et sur les monnaies qu'il frappe quelques années après la conquête, qui se fait en 106 après Jésus-Christ, il utilise comme légende, non pas Arabie conquise, mais Arabie acquise, c'est-à-dire en latin ad quisita. Et en général, quand on fait cette distinction entre acquise et conquise, c'est que cette conquête s'est faite sans guerre majeure. Par ailleurs, dans les niveaux stratigraphique correspondant à cette transition entre la période nabatéenne et la période romaine, notamment à Petra ou à Héra, il n'y a pas de bouleversement majeur, de grand niveau de destruction, de cendres montrant qu'il y a pu y avoir des destructions généralisées. Bon, ça se fait sans guerre majeure, mais sans doute avec des escarmouches, avec quelques conflits locaux, voilà, quand même.
Que sait-on sur la chronologie du Nabatéen et quand s'implantent les Nabatéens à Alula?
Alors, les Nabatéens entrent pour nous dans l'histoire avec le récit d'une expédition que font les Grecs contre eux en 312 avant Jésus-Christ, expédition qui est relatée par Diodore de Sicile, qui écrit bien plus tard. Et à ce moment-là, les Nabatéens sont un peuple qui est épris de liberté, qui ne cultive pas d'arbres fruitiers, qui n'a pas de maison en dur et qui revendique donc cet esprit de liberté. Ils connaissent l'emplacement des puits, mais sont engagés déjà dans le commerce caravanier à longue distance. Donc ils s'installent à Petra, on le sait, ils y sont dès la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ils se sédentarisent peu à peu, ils frappent monnaie à partir du 1er siècle avant, ils ont des rois à leur tête qui se succèdent avec un système de gouvernement relativement structuré, notamment des gouverneurs qui sont des gouverneurs provinciaux, qui ont à la fois un rôle militaire et administratif. Voilà, tout ça se met en place dans le courant entre le IIIe et le 1er siècle. Mais il n'arrive dans la région d'Alula, et ça on le sait par les fouilles que nous y avons entreprises depuis déjà maintenant 17 ans, ils y arrivent au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc la question est de savoir pourquoi ils arrivent à ce moment-là.
Ce que tout le monde connaît d'Alula, ce sont les tombeaux monumentaux des élites nabatéennes, du moins leur façade sculptée dans la roche à Médaïn Salé, une sorte de Pétra des sables.
Pétra, on pourrait dire qu'effectivement c'est une Pétra des roches. Pétra, de toute façon, est un terme grec qui veut dire la pierre. D'ailleurs, c'est amusant parce que le fait que Pétra veuille dire la pierre et Egra, pour nos auditeurs, Egra, Hajar, en arabe, veut dire la pierre également. Et cette signification, cette synonymie entre Pétra signifiant pierre en grec et Egra signifiant la pierre en arabe, a été à l'origine d'une confusion au XIXe siècle entre les deux sites. Et donc cette confusion a duré pendant quelques temps en raison d'une traduction d'un ouvrage de géographie de Roger de Soucil qui était en grec et qui, au lieu de traduire le mot Hajar Egra par Pétra, l'a traduit par Pétra et non par Saksoum, qui aurait évité toute confusion. Mais bref, ceci n'est pas le sujet. Donc, dans les deux cas, ça veut dire la pierre, mais dans le paysage, les deux sites ne sont absolument pas identiques. Pétra est vraiment dans un canyon extrêmement encaissé, au fond de vallées, donc de massifs, au fond d'un bassin autour duquel se dressent des massifs de grès imposants. Egra est beaucoup plus étendu. En superficie, je pense que les deux sites sont à peu près identiques, mais les pitons rocheux dans lesquels sont taillés les tombeaux rupestres de Egra sont posés, effectivement, sur une grande plaine alluviale, qui est une plaine sableuse, et donc donne cette impression d'espace, de grandeur, qu'on a peut-être un petit peu moins à Pétra, qui est beaucoup plus montagneuse.
C'est un côté grand canyon.
Je ne sais pas si c'est Pétra ou Egra qui a un côté plus grand canyon, où je n'ai pas eu la chance d'y aller. Je sais, pour avoir arpenté les deux sites, que les deux sont très beaux, mais avec une beauté et une esthétique qui sont différentes et qui s'apprécient différemment.
En tout cas, une centaine de tombeaux gigantesques, hein, monumentaux, sont conservés. Ils auraient été édifiés durant le 1er siècle, jusque dans les années 75 de notre ère.
Absolument. Alors, il y a effectivement 94 tombeaux à façade, et contrairement à ceux de Pétra, nous avons la chance qu'environ un tiers de ces tombeaux de Egra portent sur leur façade une inscription nabatéenne extrêmement longue, qui peut faire jusqu'à 10 ou 12 lignes, et qui donne la date, par les années de règne des rois nabatéens, la date durant laquelle ils ont été taillés, puisqu'on ne parle pas de construction, puisque ce sont des monuments rupestres. Donc les dates de ces tombes s'échelonnent entre l'exact tournant de l'ère, moins 1 plus 1, hein, il n'y a pas d'année 0, jusqu'à 75 après Jésus-Christ.
Oui, mais il y a un témoignage qui est encore plus tardif de l'utilisation de cette nécropole de Egra, avec une inscription funéraire datée de 356 de notre ère, qui d'ailleurs mentionne une sorte de chef d'Egra, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Et ce serait d'ailleurs, je crois, la dernière inscription nabatéenne.
Alors, effectivement, la dernière inscription nabatéenne, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir dans le détail, mais il est vrai que l'une des inscriptions considérées comme nabatéennes les plus récentes est datée de 356. Elle aurait été trouvée à Egra, on n'en a pas l'absolue certitude, parce qu'elle est sur un bloc qui a été retrouvé pour la première fois à Jeddah, dont la provenance est dite être Egra. Et cette inscription mentionne effectivement deux personnages, donc c'est une inscription en langue sémitique, qui sont les Resh Taïma et le Resh Egra. Donc que veut dire le Resh? Eh bien, c'est très simple. Resh est en fait une transcription en araméen du mot qui veut dire la tête. Si c'est ma tête. Et le Resh est donc le capot, c'est le chef de la ville. Donc chef d'une municipalité au milieu du 4e siècle après Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce Resh, ce chef de municipalité, est l'écho d'un titre qui apparaît dans une inscription latine, pour le coup, de 175 après Jésus-Christ, où nous avons là aussi un personnage qui porte un nom sémitique, je crois qu'il s'appelle Amru, fils de Hayyan, qui est dit le primus civitatis, donc le premier de la cité. Donc primus civitatis, Resh Egra, c'est en fait la même chose. Ah, je ne vais pas faire le calcul à l'antenne pour ne pas me ridiculiser, mais 356 moins 175, je vous laisse faire le calcul.
Pour les Nabatéens, il s'agissait de maisons d'éternité. Pas question, bien sûr, d'y pénétrer ou d'y enterrer quiconque. Et on a des textes aussi là-dessus.
Alors justement, les textes qui sont gravés sur les façades et que je viens d'évoquer à l'instant sont des textes relativement longs qui donnent le nom des personnes auxquelles appartenaient ces tombeaux et qui de plus donnent le nom de tous les ayants droit et des liens familiaux qu'il y avait entre le, la ou les propriétaires et ses ayants droit. Et bien sûr, quand on définit qui a le droit, on dit ce qui est interdit. Et la plupart de ces textes, qui sont donc des textes juridiques, énumèrent la liste des interdits, à savoir inhumer quelqu'un qui n'est pas autorisé à être inhumé, enlever un corps, et on peut même enlever un élément de corps. On n'imagine pas des pilleurs de tombes arrachant des bras ou des membres des cadavres inhumés à l'intérieur. En tout cas, toute une série d'interdits. Les dieux nabatéens sont garants de cette inviolabilité des tombeaux et ce sont les dieux qui sont invoqués pour s'en porter garant. Et en plus, il y a des amendes qui doivent être payées, donc soit au roi, soit au prêtre, par tout contrevenant. Et d'ailleurs, plus le tombeau, a priori, plus le tombeau est grand, est beau, cher, plus l'amende à payer est chère.
Leïla Némé, vous avez fouillé l'intérieur de ces tombeaux monumentaux ?
Alors personnellement, non, parce qu'une équipe, une mission archéologique, et ça vous le savez très bien, est faite de membres d'une équipe, donc c'est une équipe chaque fois, et il y a deux personnes qui ont été en charge de la fouille des tombeaux, Isabelle Sachet et Nathalie de l'Hôpital, une archéologue la première et une anthropologue funéraire pour la seconde, et ce sont elles qui, entre 2008 et 2015, ont soit dégager certains tombeaux dans lesquels on marchait véritablement sur des linceuls en surface. Les touristes pouvaient marcher sur les linceuls. J'en ai vu me ramasser des fragments de linceuls en textile pour me les donner dans la boîte du pique-nique. Il fallait faire quelque chose. Ou alors fouiller des tombeaux que nous avions repérés comme ayant été peu bouleversés. Ou alors carrément fouiller une tombe qui n'avait jamais été violée et qui était cachée derrière une dune.
Nous sommes presque en face de véritables momies. C'est assez étonnant.
Alors, on peut parler de momie, ça n'est pas faux. En revanche, il ne faut pas parler de momie avec éviscération. C'est-à-dire que les momies nabatéennes, il n'y avait pas d'éviscération, il n'y avait pas d'enlèvement des organes. On n'utilisait pas les vases canopes comme dans la civilisation égyptienne. En revanche, les défunts étaient enduits pour retarder la décomposition dans des linceuls qui étaient eux-mêmes trempés au préalable d'un mélange de résine et de gomme arabique visant à donc retarder la décomposition des corps.
Ils étaient entourés dans des tissus de plus en plus fins, c'est ça ?
Alors c'est l'inverse. Ils étaient entourés dans plusieurs couches de tissus, trois précisément, en tout cas pour les analyses que nous avons pu faire à partir des fragments qui ont été découverts. Une première couche qui était teinte en rouge, à la garance, on a fait les analyses qui permettent de le savoir. Et donc ce tissu teint en rouge était très fin et il était lui-même en laine. On dirait en poil, mais enfin le poil c'est de la laine. Les deux autres, donc il était très, très très fin, ce qui est au contact du corps. Au préalable, on avait mis un collier de date autour du cou et donc ce collier de date est exposé un fragment de ce collier de date est exposé pour la première fois dans l'exposition à l'Institut du Monde Arabe. Ensuite arrivent deux autres couches, de plus en plus grossières, les deux sont en lin, cette fois-ci non teint. Et pour finir, un linceul en cuir, avec des petites cordelettes en cuir qui permettaient au tout de tenir ensemble. Et tout ceci se passait dans la maison du défunt. Donc c'était une préparation par un personnage que l'on voit dans les inscriptions, qui est appelé le hannat, qui est un terme qui existe en arabe, qui veut dire l'embaumeur. Et ensuite, le défunt était sans doute emmené en procession, après avoir été placé dans un linceul de transport, muni de poignées, pour lequel nous avons essayé de faire une animation permettant de retracer tout ce processus pour la première fois dans l'histoire de l'analyse des restes nabatéens.
Alors bien sûr, il existe d'autres tombes qui ne sont absolument pas monumentales et que vous avez aussi fouillées, enfin du moins que votre équipe a fouillé à l'extérieur. J'aimerais qu'on parle des salles de banquet, car c'est une chose assez étonnante.
Alors, les nabatéens étaient très friands des confréries religieuses. Et ces confréries, on pourrait parler de fraternité, en anglais, de fraternal societies. Effectivement, des confréries ou des symposia en grec, mazaha en nabatéen. Et Strabon, au 1er siècle, nous dit que les nabatéens se réunissaient par groupe de 13 personnes, dont deux musiciens, des musiciens qui donc leur jouaient de la musique pendant ces réunions-là, et ils se réunissaient dans des triclinia ou des biclinia. Alors qu'est-ce que c'est qu'un triclinium? On entend le tri qui veut dire trois, on entend clinium qui est du latin, mais qui vient du grec cliné qui veut dire banquette, et donc ce sont des salles à trois banquettes qui ressemblent tout à fait aux salles d'apparat que on voit des majlis ou des diwans que l'on trouve en Orient, et qui sont ces salles d'apparat à trois banquettes où l'hôte de la maison reçoit ses invités.
Pourquoi s'installer dans cette vallée en particulier, Leïla Némé?
Alors, il y a deux raisons. Une raison géographique à une certaine échelle et une raison géographique à une autre échelle. À l'échelle de nord-ouest de l'Arabie, je pense que les Nabatéens s'installent au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ à Egra, qui est donc un des trois sites de la vallée d'Alula. Nous ne l'avons pas encore précisé. Ils s'installent dans ce site-là parce que c'est à mettre en rapport avec le développement de la navigation en mer Rouge, qui, comme vous le savez, commence à être mise en place au 2e siècle avant Jésus-Christ, mais à vraiment prendre son essor au 1er siècle. On sait, par Pline, je crois notamment, que les cargaisons deviennent de plus en plus importantes au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais la mer Rouge est une mer qui est difficile à naviguer, et notamment dans sa partie nord, où les vents sont systématiquement du nord-ouest vers le sud. Nord-est, sud-ouest. Et donc, pour remonter vers le nord de la mer Rouge, on est systématiquement contre le vent. D'où la nécessité, au 1er siècle avant Jésus-Christ, d'installer un port dans la partie nord de la mer Rouge. Ce port porte un nom, il s'appelle le Quai Comé, mais, et qui veut dire le port blanc. Ce port, on ne sait pas encore exactement où il est, soit à l'ouest de Egra, soit un petit peu plus au nord. Mais Egra est, je pense, fondée à ce moment-là, parce que elle est au débouché du lieu de rupture des charges que constitue ce port. Et il est certain que de Egra à Petra existait une piste caravanière qui, elle, était terrestre. Et on sait parce que, tout simplement, je l'ai suivie personnellement et j'y ai retrouvé les signatures des membres de ces caravanes qui signaient à un endroit de leur nom, puis 20 kilomètres plus loin, remettaient leur nom à un autre endroit. Donc quand on suit une personne le long d'un axe et qu'on trouve des inscriptions qui disent que soit commémoré tout homme et tout dromadaire qui vient de Egra, bon, là, je pense qu'on est à peu près certain qu'on a affaire à une piste.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Les Nabatéens sont surtout connus comme un centre du système caravanier qui relie l'Arabie heureuse à l'Arabie pétrée. Quel est ce cheminement donc? Il y a des véritables caravanes?
Alors les caravanes, on n'en a pas d'image. On ne sait pas de combien étaient constituées les caravanes. Les caravanes suivaient se faisait à certaines saisons. Là, je ne connais pas par cœur les mois. Je ne les connais plus par cœur. Je ne m'en souviens jamais des mois durant lesquels ces caravane prenait la route et revenait. Le cheminement, quand on regarde une carte publiée dans un article scientifique sur le cheminement de cette piste caravanière, bon, il suit en gros une piste qui va du Dhofar, où se trouve l'essentiel des sources aromatiques, pour aller vers Najran, qui est actuellement en Arabie Saoudite, où il y a déjà une mission archéologique franco-saoudienne qui travaille, qui est un hub, hein, une zone de carrefour, pour remonter ensuite vers le nord. Et là, on fait un cheminement qui est quasiment tout droit du sud vers le nord, en passant par Egra, en passant par Médine. Le problème de ces pistes, c'est que quand on les trace au millionième sur une carte de la péninsule arabique, c'est que c'est relativement imprécis. J'ai dit à l'instant que j'avais exploré une piste caravanière entre Egra et la frontière jordanienne, soit à peu près sur 200 kilomètres. J'ai inscrit dans le programme quadriennal de la mission que j'ai déposée il y a 2 ans maintenant, une prospection pour tenter de retrouver le tracé exact, cette fois, de la route entre Alula et Médine, c'est-à-dire sur environ 300 kilomètres. Nous avons commencé en février 2019, en suivant la route qui est donnée traditionnellement comme étant la route antique. Nous n'avons pas été convaincus que c'était parce que ça passait par là. Le problème étant toujours de voir que il est facile de montrer que c'était possible de passer par là. Il est en revanche beaucoup plus difficile d'être sûr que ça passait effectivement par là.
Qu'est-ce qu'on devrait avoir, des sortes de relais?
Alors, il faut trouver des relais. Et ces relais sont donnés principalement par les inscriptions. Et généralement, ces inscriptions sont dans des lieux d'arrêt, dans des stations. Ces stations peuvent être matérialisées par pas grand-chose. Parfois, ce sont ce qu'on appelle soit des simples radirs. Donc, qu'est-ce qu'un radir ? C'est un lieu d'accumulation naturelle des eaux de pluie, par exemple au pied d'un rocher, ou un puits antique qui peut avoir été même utilisé sur de très long terme, pendant 2000 ans. Il faut ça, il faut qu'il y ait des inscriptions qui soient gravées à côté, donc qui nous montrent que il y a des gens qui se sont arrêtés pendant toute une période. Et il faut que les rochers soient favorables à la gravure, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que dans des roches métamorphiques qui sont très délitées, on ne peut pas graver. Donc le grès est particulièrement intéressant, mais il n'y a pas du grès partout sur la route. C'est un vrai défi de retrouver à certains endroits le tracé exact des pistes caravanières. Mais on a des idées. Et j'ai vu, il y a 2 jours, j'ai déjeuné avec le chef d'expédition qui m'aide à monter l'expédition d'exploration sur la route de Médine, donc à partir d'en février prochain. Nous espérons trouver des choses qui nous permettent de dire que c'est effectivement par là que ça passait.
Donc le point de départ, c'était bien sûr le Yémen et le Dhofar, notamment le site de Rorori, fouillé d'ailleurs par une mission italienne. Le tout était bien sûr récupéré par les Nabatéens, apporté jusqu'à Gaza, c'est bien ça, avant de rejoindre l'Occident ?
Oui, Gaza était une plaque tournante, c'était le port principal dans l'Antiquité. Et il y a eu une thèse qui a été faite il n'y a pas très longtemps par une jeune chercheuse sur les monnaies de Gaza. Et donc toutes les monnaies qui ont été retrouvées montrent la vitalité de la plateforme portuaire de Gaza, qui était le débouché naturel de toutes les pistes caravanières venant du sud de l'Arabie, ayant traversé la péninsule arabique et allant en Méditerranée avant que tous ces produits soient convoyés de nouveau vers l'Occident.
Leïla Némé, nous avons parlé donc de ces gigantesques monuments funéraires des gras, mais hormis le monde des défunts, nous voici aussi devant le monde des vivants, une ville de 50 hectares difficile à appréhender, au point de se demander où étaient les vivants.
C'est toujours l'inconvénient de travailler dans un site qui est en grande partie rupestre, parce que la première chose qu'on voit, ce sont les tombeaux. L'avantage, c'est qu'ils sont conservés en 3 dimensions, qui sont là, qu'on peut y pénétrer, qu'on peut y rentrer, comme si c'était des choses qui avaient été taillées dans le rocher hier ou avant-hier. La ville des vivants, ça n'est pas du tout ça. Dans notre malheur, on a un bonheur, c'est que cette ville, contrairement à Petra, donc la ville de Hegra, était entourée d'un rempart. Ce rempart était en terre crue et sur les photos aériennes, tout simplement, et je crois même sur Google Earth, on voit le tracé, ou quasiment tout le tracé de ce rempart. Il a simplement été perturbé à l'ouest par le chemin de fer du Hijaz, dont le talus a mangé en fait le tracé du rempart. Elle est peu visible, cette ville, donc c'est effectivement là, c'est un inconvénient dû à la nature de la manière dont cette ville a été construite, parce qu'elle est pour l'essentiel en briques crues.
Elle a fondu.
Et une brique fondue, c'est une brique fondue, et ça ressemble très fort à une brique non fondue. Donc c'est une archéologie difficile qui nous a demandé, nous qui étions habitués, j'ai fouillé en Syrie et en Jordanie, donc dans des endroits où il y a beaucoup de pierres, parfois même trop, et cela nous a demandé une adaptation à des méthodes de fouille qui n'étaient pas les nôtres, et y compris à faire fabriquer des outils spéciaux à partir de serfouettes qui ont été retaillées à des dimensions idéales dans les ateliers du sous-sol du CNRS.
Est-ce que ce n'était pas aussi une architecture un peu diffuse ? Est-ce qu'on peut d'ailleurs parler d'une véritable ville ?
Oui, on peut parler d'une véritable ville. Alors, on retombe sur ce que c'est que c'est sur la définition de la ville. Je crois qu'en termes géographiques, une ville est un endroit où se concentrent des activités et des fonctions. Fonction économique, fonction culturelle, fonction administrative et fonction j'en passe. À ce titre, Hegra, la ville ancienne de Hegra était une ville. Ce n'était pas une ville diffuse parce qu'on a retrouvé des rues notamment, et des îlots dans cette ville. Ayant fait de la détection géophysique par magnétométrie différentielle sur une grande partie de ces 50 hectares, on peut voir que c'est un urbanisme assez dense, mais un urbanisme à l'oriental, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas ces grands axes comme on pourrait l'avoir avec le cardo et le decumanus des villes romaines tracées au cordeau.
Leïla Némé, 7000 inscriptions sont présentes sur les parois des rochers. On connaît bien sûr notre alphabet de tradition phénico-araméenne. L'Arabie développe une autre branche d'écriture.
Alors l'Arabie développe plusieurs autres branches d'écriture, en gros, en deux familles. Une qui est appelée le sud-arabique ancien et une autre qui est appelée le nord-arabique ancien. Ces deux traditions alphabétiques ont en commun qu'elles comprennent 28 lettres, c'est de cette alphabétique, dont la forme est relativement géométrique, avec quelques parallèles entre le sud et le nord arabique, mais ce ne sont absolument pas les mêmes alphabets. Il n'y en a pas un qui dérive de l'autre a priori. Voilà, donc deux traditions différentes.
On le sait, l'écriture arabe dérive du nabatéen et non pas du syriaque.
Oui, alors effectivement, l'écriture arabe telle que on la pratique actuellement, donc je ne sais plus combien c'est, 300 millions de personnes qui écrivent en arabe dans le monde, ne dérive pas du syriaque. Bon, c'est quelque chose qui est désormais acquis. Cette hypothèse d'évolution depuis le syriaque avait surtout émergé à la suite de travaux, notamment en France dans les années fin des années 60 et années 70. Mais la paternité du nabatéen comme origine de l'écriture arabe est désormais démontrée depuis une quinzaine d'années. Absolument. Et pas du syriaque.
Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'on a une sorte de nabatéo-arabe qui serait présent sur les rochers, donc quelque chose d'antérieur à l'arabe.
Voilà, tout à fait. Parce que jusqu'à présent, on avait des sources qui dataient du 9e siècle, mais qui relataient un phénomène qui se passe au 6e, notamment Al-Baladhuli, et qui dit que ça vient du syriaque. Mais les inscriptions transitoires, donc nabatéo-arabe, entre le nabatéen et l'arabe, on en trouve qui sont datés entre la fin du 3e siècle et le 5e siècle après Jésus-Christ. Ces inscriptions-là, dont il y a un exemple pour la première fois exposé à l'Institut du monde arabe, sont clairement transitoires entre le nabatéen et l'arabe, et elles sont datées. Donc on a la certitude d'avoir là, je n'aime pas l'expression de chaînon manquant, mais en tout cas des traces de l'évolution progressive de l'un vers l'autre, sachant qu'au 6e siècle, cette évolution, donc on est encore à l'époque pré-islamique au 6e siècle, que cette évolution est alors terminée et qu'au 6e siècle, on a quelque chose qui ressemble à de l'écriture arabe et qui peut être lu comme tel, même s'il n'y a pas encore tous les points et les trirets qui permettent de distinguer les lettres homographes.
Leïla Némé, on se souvient de l'exposition Route d'Arabie au Louvre, puis au Louvre à Abu Dhabi. Aujourd'hui, nous voici avec Al-Ula. Comme d'autres pays du Golfe, l'Arabie Saoudite revendiquerait désormais son passé pré-islamique ?
Alors, elle revendique un passé. Je ne suis pas certaine qu'elle revendique plus un passé pré-islamique qu'un autre. Elle revendique un héritage historique, ça c'est certain. L'héritage pré-islamique, il est revendiqué au même titre que les autres. Et je donne l'exemple que je donne très souvent, c'est que les deux premiers chantiers écoles de la grande université, enfin du plus gros département d'archéologie de l'université saoudienne de King Saoud, avaient deux chantiers écoles, un d'époque pré-islamique, Karyat al-Fawr, et un d'époque islamique, Rabada, mais ce depuis les années 70.
Leïla Némé, merci beaucoup. Je rappelle que l'exposition Al-Ula, merveille de l'Arabie, donc se tient actuellement à l'Institut du Monde Arabe. Signale que, hormis le catalogue de cette exposition, vous venez aussi de publier Archéologie au pays des Nabatéens d'Arabie aux éditions Maison Neuve et La Rose. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Alain Joubert et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture se penchera sur le fer. On y découvrira que les premiers objets produits dans ce métal venaient du ciel, du fer météoritique.